Il est 17h sur Radio Orient. Bonsoir à tous. Votre rendez-vous d'information, Loïc Barrière. Au sommaire de ce point d'actualité, après des manifestations notamment à Téhéran, l'ayatollah Khamenei affirme que l'Iran ne reculera pas. Il s'en prend également à Donald Trump. En Syrie, les combattants kurdes refusent d'évacuer Alep malgré l'appel des autorités. Dans le dossier du jour, l'historien Gilles Manseron revient sur le parcours de l'historien algérien Mohamed Harbi, décédé à l'âge de 92 ans. Enfin, nous ferons le point sur la CAN avec Mounir Kamouri. L'Iran ne reculera pas, un avertissement du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, alors que le pays est secoué par des manifestations. Dans un discours diffusé par la télévision d'État, il s'en est pris à Donald Trump, qu'il accuse d'avoir les mains tachées du sang de plus d'un millier d'Iraniens. Quant au chef de la diplomatie iranienne, il accuse les États-Unis et Israël d'intervenir directement dans ce mouvement de contestation. Alors que les autorités ont coupé Internet, des manifestations importantes ont eu lieu hier soir dans plusieurs villes, notamment à Tabriz et dans la ville sainte de Mashhad. Le fils de l'ancien Shah d'Iran, Reza Pahlavi, appelle à poursuivre le mouvement ce soir. Donald Trump, lui, menace le régime iranien de frapper très fort, en cas de répression meurtrière. L'Union européenne condamne la violence contre les manifestants, une violence inacceptable. Un cessez-le-feu fragile à Alep. Les autorités syriennes demandent aux combattants kurdes retranchés dans deux quartiers d'Alep de partir vers la zone autonome kurde du nord-est du pays. Damas leur garantit un passage sûr, mais les combattants kurdes ont refusé toute reddition. Ces violences ont fait au moins 21 morts depuis mardi. Emmanuel Macron salue les efforts du gouvernement libanais pour désarmer le Hezbollah. Le président français estime que la deuxième phase du plan sera une étape décisive. Il annonce par ailleurs la tenue prochaine d'une nouvelle conférence internationale à Paris sur le Liban. C'est notre droit de dire non à un allié historique. Oui, la France peut s'opposer aux États-Unis, assure Jean-Noël Barrot, alors que Donald Trump souhaite s'emparer du Groenland. Le ministre français des Affaires étrangères réfute aussi l'idée selon laquelle l'Europe risque un effacement civilisationnel. Après plus de 25 ans de négociations, l'Union européenne a donné son feu vert à l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Une décision prise malgré la colère des agriculteurs français et l'opposition d'Emmanuel Macron. Enfin, la Suisse a rendu hommage aux victimes de l'incendie qui a endeuillé la station de ski de Crans Montana la nuit du Nouvel An. Le drame dans un bar a fait 40 morts et 116 blessés. Une cérémonie à laquelle a assisté le président français. 9 Français font partie des personnes qui ont perdu la vie dans ce drame. Un des propriétaires du bar, Jacques Moretti, a été placé en détention préventive. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Dans quelques instants, le dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, place au dossier du jour. Ces obsèques auront lieu mardi prochain au Père Lachaise à Paris. L'historien algérien Mohamed Harbi, décédé le 1er janvier, laisse une œuvre majeure sur la guerre d'indépendance algérienne et l'Algérie post-coloniale. Mais il a été aussi un acteur engagé dans la guerre d'indépendance de son pays, comme le souligne l'historien Gilles Manseron, spécialiste notamment de la période coloniale.
On peut dire que Mohamed Harbi a d'abord été un acteur, un jeune acteur engagé dans la guerre d'indépendance algérienne, puisqu'il avait été adolescent au moment où celle-ci s'est déclenchée, mais quand même, il avait connu le climat de la répression qui a suivi le 8 mai 45 dans le Constantinois. Il était originaire de Hélarouche, du côté de Skikda, Philippeville, à l'époque. Et il avait connu cette époque-là, jeune enfant. Et ensuite, il a participé dans un premier temps à la guerre d'indépendance nationale jusqu'à faire partie de la délégation, comme expert, de la délégation qui a négocié les accords d'Évian en mars 62. Ça, c'est la première partie de sa vie d'engagement. Ensuite, il a travaillé avec Ahmed Ben Bella en 65, hein, et il était opposé au coup d'État de Wari Boumediene en juin 65. Et là, il a été incarcéré plusieurs années. Il ne s'est évadé que dans les années 70, et il a, au début des années 70, et il a décidé de rejoindre la France, de faire une carrière d'universitaire et de travailler sur l'histoire de ce mouvement national, le mouvement d'indépendance algérien, plutôt que en tant qu'acteur politique de la vie politique algérienne. Et c'est en cela, avec une certaine distance scientifique, qu'il est exceptionnel par l'apport qu'il a contribué à donner à travers une revue, Soual, et puis à travers différents ouvrages très importants.
C'était un historien qui avait lui-même vécu l'histoire.
Il l'a vécu avec un esprit critique qu'il n'avait pas abandonné. Quand, par exemple, je donnerai un seul exemple, à l'été 58, la direction du FNALN a décidé d'implanter la guerre, la lutte armée sur le territoire français. Et ça a donné différents attentats. Le plus connu était celui de Mourpiane, un dépôt de pétrole dans les Bouches-du-Rhône. Et il était opposé à cette implantation en France parce qu'il avait pris des contacts avec les mouvements syndicaux et politiques français et il disait déjà, ils ne sont pas complètement acquis à notre guerre d'indépendance nationale, loin de là, et on va encore compliquer les choses. C'est une des raisons, en tout cas, il s'est écarté pendant un certain temps du travail militant au sein du FLN pour y revenir après, quand la répression après la bataille d'Alger, hein, 57, et ce qui a suivi est devenu barbare et hyper violente. Donc il a rejoint à nouveau le combat du FLN jusqu'aux accords d'Évian.
Et l'historien Gilles Manceron au micro de François-Xavier de Calonne. Et chaque soir, pour tout savoir sur la Cannes, nous retrouvons Mounir Kamouri. Bonsoir Mounir.
Bonsoir Loïc.
Alors, les polémiques n'en finissent plus dans cette Cannes. Cette fois, elles concernent l'arbitrage avant le quart de finale entre le Maroc et le Cameroun.
Oui, on parle d'une polémique car la désignation du corps arbitral a été modifiée très tardivement pour ce match. La fédération marocaine a contesté certains choix initiaux, estimant que l'arbitre central égyptien et l'arbitre algérien de la n'était pas adapté à une rencontre aussi sensible. La CAF a finalement revu sa décision en changeant l'arbitre central tout en maintenant certains officiels à la VAR. Résultat, le camp camerounais s'est senti mis devant le fait accompli, ce qui a nourri un climat de suspicion et ajouté de la tension autour d'un match capital dans la course demi-finale.
Alors Mounir, où en est l'affaire des primes au Nigeria avant le quart de finale demain contre l'Algérie ?
La situation semble s'être débloquée, au moins provisoirement. Après la menace de boycott de l'entraînement et du déplacement, les autorités nigérianes ont assuré que les primes seraient versées avant le match. Les joueurs ont fait le déplacement à Marrakech, mais ce dossier rappelle que ces tensions sont récurrentes chez les Super Eagles. Et même si l'urgence est réglée, le sujet reste sensible à l'approche d'un rendez-vous décisif.
Enfin, dans votre émission, une chronique portera sur l'histoire de la Cannes, qui n'est pas seulement une histoire de football.
Oui, le 8 février 1957 à Khartoum, quatre nations ont pris une décision historique, le Soudan, l'Éthiopie, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Ils ont créé donc la Confédération africaine de football, la CAF. La Cannes est alors pensée comme une compétition conçue par les Africains pour les Africains, un tournoi qui offre quelque chose de rare à l'époque, un espace où les nations peuvent exister librement sous leur propre couleur. valeur, et pas seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan politique, culturel et symbolique. Comprendre ses origines permet aussi de mieux saisir pourquoi cette compétition occupe une place si particulière dans le cœur des peuples africains. Et c'est justement tout l'enjeu de la chronique du soir, revenir sur cette histoire fondatrice, souvent méconnue.
Merci Mounir Kamouri pour cet éclairage. On vous retrouve à 18h20. C'est la fin de ce rendez-vous d'information. Excellente soirée et très bon week-end.